Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Encore un potentiel champion industriel en vue avec la possible fusion des leaders mondiaux de l'eau et de l'environnement, Veolia et Suez. Des méga-fusions qui se multiplient en Europe et qui sont un défi pour l'organisation de la concurrence.
Et oui, d'abord cette fusion concerne deux groupes situés en France, l'un des pays justement les plus actifs dans le plaidoyer pour un assouplissement du droit européen. Et les intéressés sont réticents. Déjà Suez a prévenu que l'offre de Veolia engendrerait des dissynergies et des pertes d'opportunités en France et à l'international. Bruno Le Maire, lui, s'est dit attentif au maintien d'une pluralité d'acteurs sur les services aux collectivités locales et sur le plan européen. Effectivement, deux ONG ont déjà saisi la commission à la concurrence pour risque de monopole. On le voit, cette concentration au sommet dans le marché mondial de l'environnement réveille certains spectres, celui de champion industriel tueur de compétition et celui d'une autorité de la concurrence étrangleuse d'opportunités.
Et la situation de guerre économique mondiale pèse de plus en plus sur le droit à la concurrence européen.
En effet, Tata ThyssenKrupp, Alstom Siemens, Saint-Nazaire Fincantieri, ces méga-fusions souvent présentées avec la bénédiction des gouvernements intéressés comme des actes de souveraineté industrielle viennent se fracasser sur l'un des piliers de la souveraineté de l'Union. Dans les textes, c'est le souci d'une concurrence libre et non faussée. D'où une certaine tension. L'année dernière, Bruno Le Maire, qui parlait d'erreurs politiques et économiques, ne cachait pas son amertume après le refus de la fusion Alstom-Siemens. Le débat entre partisans de géants industriels européens et défenseurs d'une neutralité, disons, de la concurrence n'est cependant pas nouveau, puisque le premier refus est intervenu en 1991, lorsque l'avionneur français Aérospatial voulait racheter le canadien De Havilland. Il a donné lieu à la même confrontation d'arguments de politique industrielle et politique de la concurrence. Depuis, la commission de la concurrence de l'Union a été accusé de dogmatisme, d'inquisition, voire de démagogie. Pourtant, son bilan industriel n'est pas une hécatombe, seulement le dixième. 10 fusions bloquées en 10 ans, rappellent les échos. Mais c'est vrai que face à la menace nouvelle des GAFA, ou surtout de grands groupes chinois assez opaques, subsiste le fait que la commission passe pour être sourde et aveugle.
Alors y a-t-il un moyen de cesser d'opposer politique industrielle et politique de la concurrence? Il faudrait changer les règles du jeu, Xavier?
C'est en tout cas désormais une demande formelle de la part de 4 États membres. Allemagne, France, Italie, Pologne, qui presse la commission à la concurrence de réformer son fonctionnement en le rendant plus collégial. Dans le même sens, dans un rapport cette année, la fondation Robert Schuman plaide pour une réforme du droit lui-même et propose de créer une instance de décision indépendante de la commission et même d'introduire ce qu'elle appelle un droit d'évocation aux politiques. Autre solution originale, que le droit à la concurrence autorise des positions dominantes transitoires pour rééquilibrer le jeu concurrentiel à moyen terme, c'est-à-dire le temps, par exemple, de faire face à un gros acteur qui menace directement certains marchés, typiquement le train européen face à la CRRC chinoise. Alors, plutôt qu'une réforme des règles, d'autres, comme le spécialiste François Brunet, préconisent de renforcer les pions, d'abord en finançant mieux la politique industrielle de l'Union, mais dans ce contexte de tensions économiques accrues et d'une concurrence opaque. Donc, l'idée serait aussi que l'autorité de la concurrence elle-même soit plus stratégique, en la dotant d'un vrai service d'intelligence économique ou de renseignement, si vous voulez, les yeux et les oreilles dont elle manquerait.
Il y a donc des possibilités techniques. Reste une question théorique. Les champions sont-ils le meilleur moyen pour dynamiser une politique industrielle?
C'est difficile à dire. Là, il n'y a pas vraiment, qu'on me pardonne, de théorie du dynamisme industriel, à part l'idée qu'il n'existe pas sans innovation et donc de gros capitaux. Quant aux théories des marchés, elles prohibent en principe les monopoles et toute situation dominante qui présente en ce sens un risque. Mais l'histoire économique est aussi riche d'exemples où la modernisation et la puissance de certains États a été conquise au moyen de groupes déjà gigantesques, particulièrement en période de rattrapage économique, essor de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon au 19e, ou encore 30 glorieuses en France. Et aujourd'hui, en période de relance, le débat persiste. Certains dénoncent régulièrement un mythe des champions, comme encore une fois François Brunet, qui affirmait cette année que de nombreux économistes estiment désormais que la politique européenne de la concurrence a été un facteur clé du dynamisme de l'économie européenne au cours des 20 dernières années. À l'inverse, ajoute-t-il, le relâchement de la régulation et les concentrations des 20 dernières années aux États-Unis ont diminué leur performance économique. Vous le voyez, rien n'est simple, mais une chose est sûre, la commission à la concurrence qui examine quel impact les fusions ont sur les prix et les acteurs du marché aura du mal à intégrer la menace de la concurrence extra-européenne comme un paramètre nouveau. Pour l'instant, elle ne peut rien dire de l'opportunité stratégique des fusions.
Merci beaucoup, Xavier Martinet. matinée. On vous retrouve demain pour un nouveau Journal de l'Écho.